marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
À la guerre, il est très important de reconnaître l'ennemi. Car sans ennemi, la guerre est ridicule.
Le renseignement contre l'incertitude.
Comment reconnaître l'ennemi? C'est simple. Regardez bien. Comme vous le voyez, l'ennemi a des oreilles. Il n'est pas contagieux, mais il est héréditaire. Il est sot. Il croit que c'est nous l'ennemi, alors que c'est lui.
Et c'est lui qui le dit qu'il y est.
Quelquefois, l'ennemi essaie de se déguiser en géranium. C'est le cas ici. Mais on ne peut pas s'y tromper. Tandis que le géranium est à nos fenêtres, l'ennemi est à nos portes.
Mais si, Pierre Desproges, il y a des ennemis. Le monde présent ne ressemble pas à la post-modernité tranquille qui nous avait souvent été promise. L'Europe, en particulier, ne peut plus ressembler à ce qu'elle fut longtemps, sous le parapluie américain. Les deux derniers présidents des États-Unis ont clairement laissé entendre qu'ils ne souscriront plus avec nous le même contrat d'assurance vie qu'auparavant. Terrorisme, tensions commerciales, relance de la course aux armements, recours au discours de la guerre chez de plus en plus de dirigeants, on sent bien que les dangers guettent. En conséquence, le renseignement devient de plus en plus important. Il est devenu une fonction fondamentale. Il ne prétend pas à une connaissance à 360 degrés, mais on attend de lui une capacité d'anticipation et une réduction des incertitudes. S'il fascine par ses aspects romanesques, le renseignement par tradition est louche, encore plus louche quand il est amené à lancer des opérations commando à l'extérieur et qu'il accorde même le permis de tuer à des engins sous pilotage automatique. Les démocraties, pour se maintenir dans un contexte mondial qui leur est de plus en plus défavorable, ont besoin du renseignement, mais c'est en démocratie que le renseignement opère, avec des procédures de contrôle. Et là encore, l'attitude de l'actuel président américain interroge. Il s'émancipe des alliances, du langage traditionnel, mais aussi parfois des principes intangibles de la protection des données du renseignement. Car les règles en la matière sont autrement plus subtiles que la loi du plus fort et la guerre de tous contre tous.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Hugues Moutou, bonjour.
Bonjour.
Vous avez appartenu à nombre de cabinets ministériels et vous avez été conseiller sécurité auprès du président de la République jusqu'en 2012. Alors qu'est-ce que je peux dire encore? Que vous êtes agrégé de droit public, que vous avez été le plus jeune préfet de France. Mais enfin ça dure pas très longtemps.
Et je pense c'est que une maladie dont on guérit chaque jour.
Je ne sais pas si vous aviez beaucoup de loisirs ces 5 dernières années. En tout cas, avec Jérôme Poirot, vous avez coordonné un dictionnaire du renseignement aux éditions Perrin. Absolument énorme, de 800 ou 900 pages, complet, très très intéressant. Vous m'avez appris tout à l'heure qu'il ne fallait pas dire top secret, ça ne faisait pas partie des classifications à la française, mais au fond, avec ce dictionnaire, vous avez voulu montrer que le secret, c'était le top, quoi. Que ça pouvait être académiquement, intellectuellement, au top.
Oui, absolument, oui. D'ailleurs, nos amis anglo-saxons parlent d'intelligence.
Ça s'enseigne, le renseignement?
Ça peut s'enseigner, ça s'apprend aussi sur le terrain. Il y a même une académie du renseignement en France qui a été créée en 2008.
À laquelle vous n'êtes pas complètement étranger?
Non, absolument. Et cette académie fait de la formation initiale et continue pour les cadres et les hauts cadres, les hauts dirigeants du renseignement français.
Et l'espionnage et le contre-espionnage, ce sont des disciplines à part entière, chacune indépendante, indépendante l'une et l'autre de l'art de la guerre.
Disons que c'est oui, parce qu'on fait de l'espionnage et du contre-espionnage en temps de paix, même si aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années maintenant, on brouille de plus en plus les frontières entre la paix et la guerre. Hein, quand est-ce que commence la guerre? Richelieu utilisait une expression que je trouve tout à fait intéressante. Il parlait de guerre couverte contre l'Autriche avant de basculer dans la guerre ouverte. On est toujours en guerre couverte et c'est le rôle des services de renseignement de protéger nos intérêts, de les défendre sur le territoire français, bien évidemment, contre les ingérences des services étrangers, et à l'extérieur pour promouvoir la politique de la France.
Alors, c'est très difficile de distinguer espionnage et contre-espionnage. L'espionnage, c'est peut-être moins difficile à appréhender, dit le doctrinaire du renseignement, que l'espion, parce que l'espion recouvre différentes catégories d'agents. Il y a tant de catégories d'agents que pour nombre d'entre elles, elles échappent à l'espionnage. Comprenne qui pourra. Il y a une rubrique film dans le dictionnaire de renseignement sur laquelle on s'est appuyé. Vous tenez en grande considération le bureau des légendes d'Éric Rochant.
D'abord, c'est une série française d'espionnage, il n'y en a pas beaucoup, qui rivalise avec les grandes séries américaines. On pense bien sûr à Homeland ou à The Americans. Et le bureau de légende est une très bonne série, assez vraisemblable, et je trouve qu'il présente le renseignement français sous un bon jour. Et puis,
il y a peut-être eu une collaboration avec les services.
Collaboration,
concernés.
Disons qu'il y a eu effectivement un léger partenariat pour éviter que les réalisateurs ne s'égarent complètement.
C'est comme pour votre dictionnaire au fond.
Alors, c'est tout à fait différent puisque le dictionnaire, là, on n'est pas dans la fiction. Pour la première fois, l'éditeur a réuni une équipe qui est issue de la communauté du renseignement. Donc, c'est un peu le renseignement vu par le renseignement et offert à un public éclairé.
Alors, recentrons. Je parlais du bureau des légendes. Nous sommes dans le bureau d'un colonel.
Ça fait maintenant 52 heures que nous n'avons plus de nouvelles de notre clandestin à Alger.
On a combien de clandestins au service ?
On en avait 9. Avec Malotru qui vient de rentrer, on en a plus que 8.
Dont Cyclone.
Dont Cyclone.
On a donc égaré un huitième de la flotte.
À l'heure actuelle, on a 3 hypothèses. Cyclone a été arrêté. Cyclone a été enlevé. Cyclone a organisé sa propre disparition.
C'est sûr que le fait qu'il était ivre plaide en faveur des 2 dernières hypothèses.
Ah bon, pourquoi ça ?
À partir du moment où il refuse de s'entraîner aux interrogatoires sous alcool, on peut penser qu'il a pu déraper au moment de répondre à la police. Il a pu se contredire ou bien se dénoncer.
Mais comment se fait-il qu'il ait refusé les exercices ?
Il était musulman pratiquant.
Mais alors pourquoi était-il bourré ? Donc vous n'avez rien vu, on ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qui s'est passé.
Nous avons ici une liste de tout ce que Cyclone peut compromettre, y compris tout ce à quoi il a pu avoir accès avant son départ à Alger. Jacques ?
Sur une cinquantaine de cibles repérées par Cyclone, il en connaît 4 qui effectivement ont été recrutées. La connaissance des opérations suivantes. Amenas, en Mauritanie. Philibert, au Mali. Félix, en Algérie. Triton, en Libye. Et de façon beaucoup plus lointaine, Chaloupe, au large de Dakar.
Oui, c'est une bonne question, celle du colonel. On a combien d'agents ? On a combien de personnes dans ce que l'on appelle depuis peu la communauté du renseignement ? Des personnes qui peuvent être des agents, des analystes, des civils, des militaires ?
Alors, dans la communauté du renseignement, on a à peu près un peu plus de 10 000 agents, fonctionnaires, contractuels. La terminologie d'agent est une terminologie un peu polysémique, on va dire. Dans cet extrait du bureau des légendes que vous passez, on parle de clandestins. Les clandestins, par exemple, c'est une catégorie d'agents particuliers qu'on appelle les illégaux, puisque vous avez finalement, quand vous êtes à l'étranger, 2 façons d'être agent de renseignement, on va dire ça. La plupart du temps, vous êtes un agent déclaré, avec sous protection diplomatique. Et vous avez également des illégaux, donc The Americans, ce sont par exemple des agents dormants soviétiques, illégaux bien évidemment, qui passent de très nombreuses années sur le sol américain en vue de réaliser leur mission qui est la collecte de renseignements stratégiques.
Alors 10 000 personnes,
un peu plus,
un peu plus, 13 000 quelques. Vous dites 13 000, oui, dans le dictionnaire. mais... Le continuum est difficile à tracer parce que c'est une somme de facteurs, c'est une ligne faite de segments, chacun a son segment et est dans le cloisonnement aussi. Alors, j'ai appris qu'il y avait 3 règles. Besoin d'en connaître, tiers service Et secret des sources. Alors vous allez me dire, secret des sources, les journalistes savent ce que c'est. Bon, alors il n'y a pas besoin de trop de leur expliquer. Mais tiers-service et besoin d'en connaître.
La règle du tiers-service, c'est une règle tacite qui est respectée par l'ensemble de la communauté internationale des services de renseignement. À partir du moment où un pays A donne un renseignement à un pays B, le pays B ne peut utiliser le renseignement qui lui a été fourni par le pays A sans demander son autorisation.
Ah bah exemple, c'est on va parler règle. De la France et des États-Unis un peu ensemble. Oui. Exemple, le président Trump qui raconte au ministre russe des Affaires étrangères ce que lui a apporté Israël.
Ce que les services israéliens ont apporté à la CIA.
Ouais.
Voilà. Donc,
ça va pas,
effectivement.
Ça.
Non. Maintenant, on peut toujours dire c'est un président démocratiquement élu, il n'est pas tenu aux mêmes impératifs, on va dire, éthiques que les membres des services. Ça n'a pas été tout à fait bien apprécié par la communauté du renseignement et la conséquence peut être une rétention, une méfiance ensuite des services étrangers à confier des secrets aux services américains qui pourraient être disclosés par le président de la République américaine.
Besoin d'en connaître.
Le besoin d'en connaître, c'est lié au système de classification et à la protection des données. C'est-à-dire que vous pouvez, vous comme moi, nous pouvons tous les deux être habilités au même niveau, par exemple secret défense. Vous travaillez sur des dossiers sur lesquels je ne travaille pas. Même si théoriquement j'ai droit d'en connaître, en fait, je m'impose comme devoir de ne pas chercher à savoir les secrets que vous manipulez. C'est le système du cloisonnement qui est issu, on va dire, du monde traditionnel de l'espionnage et du contre-espionnage. Ce cloisonnement est un peu remis en question avec l'orientation très antiterroriste des services. On n'a pas besoin de se méfier autant d'une infiltration de djihadistes à la DGSE, par exemple, ou à la CIA, qu'à l'époque, on craignait les taupes soviétiques dans les services.
Maître Mot, donc, protégé et dérobé et protégé. Vous parlez de 1000 méthodes pour dérober les secrets. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un bateau espion français qui portait le nom de Dupuis de l'Homme. C'est qui ça, Dupuis de l'Homme? C'est un père fondateur de l'espionnage maritime. Alors, ces bateaux secrets, ils sont dans les eaux. Ce bateau secret, il est dans les eaux internationales.
Il navigue. En fonction des besoins.
Voilà. Et il a une allure de père tranquille. Protégé par les codes. Nous sommes ici, je vous donne le titre du film Les Messagers du Vent, comme vous êtes expert en cinéma. Hugues Moutou, vous allez pouvoir nous raconter le contexte. Nous sommes dans la guerre du Pacifique en 1942. Les Japonais connaissent beaucoup de codes des Américains.
Ils ont craqué pas mal de codes, oui.
Alors, il y aurait une méthode peut-être qui serait d'utiliser la langue des Navajos, parce qu'elle est connue que des Indiens.
Oui, c'est une langue très difficile, qui s'apprend difficilement, qui est parlée par peu de locuteurs, et donc qui a été utilisée par les Américains au moment de la Deuxième Guerre mondiale.
Et les Allemands, ils s'étaient préoccupés de cette méthode, de la possibilité d'utiliser une langue indienne?
Oui, parce que déjà pendant la Première Guerre mondiale, en fait, les Américains utilisaient la langue des Cherokees, notamment, pour transférer des informations confidentielles liées aux opérations militaires. Et ça a été connu après la Première Guerre mondiale. Donc les Allemands envoient aux États-Unis des étudiants, sous la République de Weimar, envoient, donc, comme vous l'avez dit, la démocratie pratique l'espionnage, bien sûr. Envoie donc des étudiants aux États-Unis pour apprendre les dialectes et les langues indiennes. Beaucoup de langues, mais pas la langue navajo.
Dites-moi, caporal, vous avez rencontré des Indiens au Salomon?
Rencontré des Indiens?
Des Navajos, caporal Enders. Le chiffre a mis au point un nouveau code basé sur leur langue. Ça a eu un sacré impact. Du coup, la marine est décidée à tout faire pour le protéger des Japs. C'est pour ça que vous êtes ici. Vous ferez équipe avec un Navajo pour assurer sa protection. Votre mission est de le maintenir en vie pour qu'il puisse accomplir la sienne. Tojo donnerait tout pour pouvoir capturer un Navajo. Il ne me reste plus qu'une chose à vous dire. Une chose qui ne doit pas sortir de cette pièce. Vous ne devez sous aucun prétexte laisser votre radiocodeur tomber entre des mains ennemies. Votre mission est de protéger le code. À n'importe quel prix. Vous me comprenez ?
Oui, je crois.
Bien.
Et ce code ne sera jamais forcé. Donc ils vont raconter ça, les Américains, pour montrer leur capacité et leur fierté au lendemain de la guerre.
Ils attendent quand même.
Ils attendent 68.
Oui. Oui.
Et Enigma 2000.
Oui.
Explique le dictionnaire du renseignement que vous
alors, Enigma, c'est intéressant, c'est le contraire. Donc, Enigma, c'est. Il y a eu énormément de romans, de films, de documentaires sur cette machine à crypter qui ressemblait finalement à une banale machine à écrire de voyage avec un écran et qui cryptait automatiquement les messages que l'on entrait, que l'on tapait, avec une machine également pour le récepteur du message qui décryptait. Donc c'était un système extrêmement complexe, très très intelligent, et il a fallu de très nombreuses années, puisque Enigma est utilisé au milieu des années 20 jusqu'en 1945. Il a fallu beaucoup d'intelligence dans le monde entier. La communauté des alliés s'est réunis à de nombreuses reprises pour essayer de trouver une solution. Ils ont réussi à craquer le code, assez tôt en vérité. Et ensuite, la question était de savoir, était de protéger finalement le décryptage pour que les Allemands continuent à utiliser cette machine et ce même code.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas montrer à l'ennemi que
absolument.
Le code a été cassé.
Voilà, et y compris en sacrifiant des vies. Churchill a eu un certain nombre de décisions difficiles à prendre, d'autres également, pour protéger le code. Je reviens sur l'extrait des messagers du vent que vous avez. Voilà, pour protéger le code, on a été obligé, pendant le Second Conflit mondial, de sacrifier des vies humaines.
Alors, nous sommes en démocratie, ne cessez-vous de rappeler, dans votre dictionnaire du renseignement, c'est un des aspects originaux de ce dictionnaire. Cependant, même si ça paraît louche, on peut lancer des mission avec des objectifs lointains et des cibles à distance. Après tout, du Guesclin, hein, il faisait déjà ça pendant la guerre de 100 ans. On va prendre un exemple en 1982. Nous sommes aux États-Unis, mais la France n'est pas si loin. Vous nous expliquerez pourquoi. Reagan lançait un vaste programme de guerre des étoiles pour faire plier le régime soviétique et puis en même temps pour l'humilier, le déstabiliser. Il pilotait des opérations à distance comme celle-ci qui constituait à introduire un virus dans le pilotage informatique d'un gazoduc au fin fond de la Sibérie.
Selon certains experts, la déflagration qui vient de se produire est l'explosion d'origine non nucléaire la plus puissante de l'histoire. Prévenu par des satellites d'alerte précoce, le haut commandement de l'armée américaine est en émoi.
Une formidable explosion avait eu lieu au fin fond de la Sibérie. Si je me souviens bien, le chef du renseignement militaire nous a indiqué qu'elle avait dégagé une puissance de 3 kilotonnes. Je me trouvais au centre de sécurité nationale. Quand nous avons entendu parler de cette explosion, le conseiller Gus Weiss est venu nous dire « Pas d'inquiétude, c'est une opération de la CIA ». Bon, très bien.
Bon, très bien, dit le haut commandement, qui n'est donc pas au courant. C'est une opération de la CIA.
C'est une opération non
clandestine. C'est pour ça que, quand je disais Reagan décide, vous haussiez le sourcil. Le président était au courant.
Oui, bien sûr.
Il n'y a pas que le seul président français qui était au courant d'opérations comparables. Il n'y a pas d'article dans le dictionnaire du renseignement sur Farwell. Et c'est à la même époque. Et c'est une affaire qui se règle entre le président américain et le président français, que vous pouvez peut-être rappeler.
Farwell, donc, c'est la plus grande taupe soviétique, le plus grand défecteur soviétique. Qui a apporté des informations extrêmement importantes sur la situation militaire, administrative et morale de l'empire soviétique. Et c'est un défecteur qui a été traité par la DST, peu la particularité, ils n'ont pas par la DGSE. Ça a été traité par la DST à Moscou. Et ça a été une mine de renseignements. On l'a appelé Farwell d'ailleurs pour brouiller les pistes, pour donner l'impression que, au cas où ça se passerait mal, c'était plutôt les anglo-saxons qui traitaient ce défecteur. Et François Mitterrand, effectivement, prévient Ronald Reagan de l'existence de cette taupe, qui a été ultra protégée, bien évidemment.
Alors, les outils de coopération, les outils de mise en commun, vous pouvez nous en dire davantage, Hugues Moutou ? Vous pouvez parler des cercles informels qui se réunissaient autrefois et qui n'existent plus. Ça ne va pas porter à conséquence. Il y avait même un club méditerranéen, vous racontez-vous, un club
oui,
de
bah,
Berne.
Mais c'est normal, la coopération. Alors, on le voit aujourd'hui dans la lutte antiterroriste.
Et vous dites trans aussi. Hein.
Oui.
Pas renseignement, non, mais il faut qu'on s'habitue, pardonnez-nous.
Dans la lutte antiterroriste, on voit bien qu'on a besoin de mutualiser le renseignement ou l'information. On a besoin de coopérer, de cette coopération internationale. Et cette coopération, elle passe soit par des clubs, on va dire, assez officiels, soit par des réunions de travail tout à fait informelles, et il s'en tient heureusement de très nombreux. Et puis, cette coopération, elle passe aussi par des agents de liaison, elle passe par les postes à l'étranger des services français et les postes en France des services étrangers. Voilà.
Donc, il y a une coopération. Je vois école militaire en 2002, des actions contre les membres d'Al-Qaïda en dehors de l'Irak et de l'Afghanistan. Et là, il y a une cellule discrète avec un objectif étroit et qui réunit 4 ou 5 pays.
Oui, tout à fait.
Et ça, vous pouvez le révéler maintenant.
Oui, mais je crois qu'on est. On ne révèle aucun secret protégé dans ce dictionnaire. On dit beaucoup de choses, on explique énormément. Mais bien évidemment, on ne souhaite pas être passible d'un délit de compromission en révélant des secrets défense.
Alors, bien distingué, m'expliquez-vous, les opérations spéciales dans lesquelles interviennent des forces militaires...
Des opérations clandestines.
Des opérations clandestines.
Distinctes.
Ce sont deux choses distinctes. Bien. Bah,
les opérations spéciales qui sont menées par les forces spéciales sur des théâtres d'opérations extérieures sont revendiquées et revendicables par un État. En revanche, le Rainbow Warrior n'a pas été revendiqué, bien évidemment. C'était une opération clandestine. Elle a été révélée par la presse et voilà.
Il y a un grand article, Rainbow Warrior. Au rubrique film, chute du Faucon Noir. Nous sommes peut-être en Somalie, mais ça pourrait être ailleurs. Et là, nous sommes avec des troupes américaines.
Une réunion très attendue des anciens de la garde rapprochée d'Aïdid pourrait avoir lieu aujourd'hui à 15h00. Deux personnalités de premier plan pourraient être présentes. Omar Salad, principal conseiller politique d'Aïdid, et Abdi Hassan Mawale, ministre de l'Intérieur. C'est les types qu'il nous faut. À 15h45, le groupe d'assaut Delta Force va infiltrer le bâtiment cible et capturer tous les suspects. Force de sécurité des Rangers, 4 unités, sous le commandement du capitaine Steele, seront élitroyées à 15h46 aux quatre coins du bâtiment. Une fois que Delta aura confirmé, la colonne de McKnight approchera le bâtiment pour charger les prisonniers sur des camions bâchés. Minutage de l'infiltration à l'extraction, pas plus de 30 minutes.
Des questions ?
De quel bâtiment s'agit-il ?
Situation du bâtiment en cours de confirmation, quelque part dans le marché de Baccarat. J'ai pas choisi le lieu et l'heure de leur rencontre.
Je n'ai rien dit, monsieur.
Ne vous faites surtout pas d'illusions. Quand vous serez dans le marché de Baccarat, vous serez livré à vous-même en territoire hostile. Bonne chance, messieurs.
Permis de tuer, risque d'être tué. Sans arrêt, votre dictionnaire est traversé par les questions que posent les transformations techniques. Maintenant, on peut tuer à moins de risque.
Oui, avec les drones. Par exemple, oui.
Comme le drone Monsieur Netanyahou montrait récemment dans une conférence de presse et qui, selon lui, venait de Syrie.
On utilise les drones aujourd'hui. Hier, on utilisait des parapluies bulgares quand on était un agent soviétique ou dans le bloc soviétique. Les opérations d'élimination peuvent s'effectuer via des services de renseignement, les opérations clandestines, ou via les forces spéciales. L'opération Ben Laden a été menée par les forces spéciales américaines et revendiquée très officiellement. Hein, c'était une opération militaire.
Mais avec le drone, on ne sait pas qui tue.
Avec le drone, on ne sait pas qui tue, si, parce que le drone, il est quand même commandé à distance par des opérateurs. Et on vous avez aux États-Unis, en tout état de cause, une liste de personnes à éliminer dès lors qu'elles constituent un danger immédiat. Voilà, c'est la pratique américaine qui a été révélée, ce n'est pas du tout un secret d'État. Et l'utilisation de drones permet de s'assurer de la meilleure réalisation de l'objectif.
Alors, les pratiques révélées aux États-Unis, dernier chapitre, bref mais important, contrôler les agents et les services secrets au milieu des années 1970. Les parlementaires américains s'inquiètent de ce qui a pu se passer sous l'autorité du secrétaire d'État Kissinger, par exemple, au Chili. Il y a un article Commission Church dans votre dictionnaire du renseignement, et puis aussi un documentaire d'Arte sur ce même sujet, 76.
C'est l'implication de la CIA dans le coup d'État au Chili et les révélations sur la complicité entre l'agence et la Maison Blanche pendant le Watergate qui vont pousser le Congrès, trompé et humilié par Nixon, qui a démissionné, à prendre la décision de museler la CIA. En 1976, les auditions des directeurs de la CIA devant les commissions sénatoriales Church et Pike vont bouleverser les Américains. C'est au tour de Richard Helms d'être appelé à la barre. Il n'avait jamais dit un mot en public, jamais accordé le moindre entretien. Le Washington Post écrit « Helms, déposant sous serment, a souvent été proche du parjure. Responsable des écoutes téléphoniques, il a eu le temps de détruire tous les dossiers avant son départ de la CIA en 1973. »
Monsieur Helms, vous avez été un peu vague. Vous dites lui avoir parlé de cette opération. Je le pensais, mais peut-être n'ai-je pas été assez précis. Je croyais qu'il fallait trouver des preuves. Pour obtenir des informations, il fallait ouvrir le courrier. Vous estimez que la CIA est au-dessus des lois ? Nous faisons notre boulot, protéger notre gouvernement et notre mode de vie.
C'est très important, cette commission de Church. On aimerait avoir quelque chose d'équivalent en France, à certains moments.
Bien évidemment, l'activité de renseignement est contrôlée dans une démocratie, c'est le principe. Pas de la même façon qu'aux États-Unis, parce que le système institutionnel, la séparation des pouvoirs est légèrement différent. On a aujourd'hui un contrôle parlementaire en France, via la délégation parlementaire du renseignement.
Bah oui, mais vous dites, elle a été créée il y a peu, peut-être n'êtes-vous pas complètement étranger à sa création, mais ses rapports, c'est couvert par, j'allais dire top secret, si le mot était autorisé.
Mais l'important, c'est pas de révéler le contenu, mais plutôt que le contrôle ait lieu par des gens avertis. Donc on a ce contrôle parlementaire qui ne suffit pas, et c'est pour ça qu'en France, nous avons un contrôle via des autorités administratives indépendantes, très indépendantes, qui sont la plupart du temps présidées par des hauts magistrats. Je pense notamment à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui a été instituée après la loi de 2015, la plus grande loi sur le renseignement français, et qui contrôle a priori l'utilisation de techniques qui, sur le sol de France, peuvent bien sûr, violer la vie privée des individus. A priori, c'est-à-dire avant que des techniques d'écoute, des techniques d'enregistrement d'images soient installées. Oui, il y a un système ou des interceptions de sécurité. En amont, vous avez un contrôle a priori assez réactif qui est donné.
Et le contrôle des journalistes, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, le contrôle des journalistes...
Est-ce que vous ne voudriez pas qu'il y ait un milieu mieux formé chez les journalistes ?
Oui, le contrôle des journalistes, bien sûr, c'est important. Moi, je souhaiterais effectivement que l'Académie du renseignement, dans le cadre de ses activités de formation, puisse, on va dire, éveiller les esprits des journalistes, des hauts fonctionnaires, des chefs d'entreprise, aux besoins et aux méthodes du renseignement, et créer une vraie communauté du renseignement élargie et pas simplement limitée aux grands services de renseignement.
Mais en même temps, vous avez une phrase phare que vous utilisez pour d'autres sujets que ceux dont on a eu à connaître cet après-midi. Un excès de zèle dans ce domaine, c'est toujours préférable à un excès de timidité. On lit ça parfois sous votre plume.
Oui, je pense que on a besoin de renseignements, anticiper et connaître, c'est une fonction stratégique majeure, le renseignement.
C'est pas une tradition, c'est une fonction.
C'est une fonction stratégique, anticiper et connaître. pour permettre à la France de rayonner dans le monde et de défendre au mieux ses intérêts.
Alors l'anticipation, il faudra en parler, l'intelligence artificielle, l'univers numérique transforme profondément le monde du renseignement, ce que vous montrez par de multiples exemples. Avec Jérôme Poirot, vous avez donc dirigé ce volume aux éditions Perrin. L'émission était préparée par Franck Olivard avec Valérie Aestaraï à la réalisation et Antoine Teboul à la technique. Et chez vous, Mathieu Vidard, on parlait de numérique.
Oui, ben justement, oui, on va parler des nouveaux monstres. Alors, pas ceux de Dino Rizzi, mais ceux qui sévissent sur les réseaux sociaux.
Le lynchage sur Internet.